Le regard du duc s'abaissa sur la gauche, vers le paysage convulsé du bouclier. Aiguilles de rochers, taches jaunes et brunes marquées de crevasses. L'énorme muraille rocheuse semblait avoir été lancée depuis l'espace pour s'écraser là et y demeurer à jamais. Ils survolèrent une dépression où coulait une grise rivière de sable provenant d'un canyon ouvert au sud. Sur le rocher sombre, les doigts clairs du sable formaient comme un delta figé. Kynes, immobile, songeait à toute cette graisse pleine d'eau qu'il avait sentie sous les distilles. Ils portaient des ceintures boucliers sous leurs robes, des tétaniseurs à charge lente à la taille, des émetteurs d'alerte minuscules accrochés au cou. Le duc et son fils avaient des couteaux fixés dans des étuis à leurs poignets, et ces étuis semblaient avoir bien servi. Ce qui frappait Kynes chez ces gens, c'était un étrange mélange de douceur et de puissance armée. Ils étaient totalement différents des Harkonnen.
Lorsque vous ferez votre rapport sur le changement à l'empereur, lui direz-vous que nous avons observé les règles ? Demanda Leto. Il s'était tourné pour regarder Kynes.
Les Harkonnen sont partis ?
Vous êtes venu.
Et tout est conforme ? Un muscle se raidit sur la mâchoire de Kynes, révélant une tension momentanée.
En tant que planétologiste et arbitre du changement, je dépends directement de l'Impérium, monseigneur.
Le duc eut un sombre sourire.
Oui, mais nous connaissons tous deux les réalités.
Dois-je vous rappeler que Sa Majesté soutient mes travaux?
Vraiment?
Et quels sont-ils? Dans le bref silence qui suivit, Paul songea, il mène ce Kynes trop vite. Il regarda Alec, mais le guerrier baladin contemplait pour l'instant le paysage désolé.
« Bien entendu, » dit Kynes avec raideur. « Vous faites allusion à mes travaux de planétologie. »«
Bien entendu. » »«
Cela concerne surtout la biologie et la botanique des terrains secs. Quelques recherches géologiques, prélèvements d'échantillons, tests. On ne saurait épuiser toutes les possibilités qu'offre une planète. »«
Faites-vous aussi des recherches sur l'épice. »
Kynes fit face au duc, et Paul remarqua la ligne plus dure de ses mâchoires.
« Voilà une curieuse question, monseigneur. »
« N'oubliez pas, Kynes, que ceci est maintenant mon fief. Mes méthodes diffèrent de celles des Harkonnen. Je me soucie peu que vous étudiez l'épice pour autant que je partage vos découvertes. »
Son regard était fixe.
« Les Harkonnen n'encourageaient pas les recherches sur l'épice, n'est-ce pas ?»
Kynes ne répondit pas.
Vous pouvez parler sans craindre pour votre vie, dit le duc.
La cour impériale est certainement très loin, murmura le planétologiste.
Et il songea, qu'espère donc cet envahisseur tout gorgé d'eau? Me croit-il assez stupide pour me mettre à son service? Le duc eut un rire bref. Il avait reporté toute son attention sur le pilotage.
Je décèle une certaine aigreur dans votre ton. Nous avons déferlé sur ce monde avec notre armée de tueurs, hein? Et nous espérons vous faire admettre que nous sommes différents des Harkonnen.
J'ai lu la propagande que vous avez déversée dans les sièges et les villages. Aimez le bon duc. Votre corps de...
Prenez garde!
Aboya Alec. Il s'était soudain penché en avant, arraché à la contemplation du paysage. Paul posa une main sur son bras.
Gurney, dit le duc en se tournant pour le regarder. Cet homme a longtemps servi les Harkonnen.
Alec se rassit.
Bon.
Votre homme, Awat, est très subtil, reprit Kynes. Mais ses intentions sont très évidentes.
Nous ouvrirez-vous ces bases ? Demanda le duc.
Elles sont la propriété de Sa Majesté, dit sèchement Kynes.
Elles ne servent pas.
Elles pourraient servir.
Sa Majesté est-elle de cet avis ?
Kynes le regarda durement.
Arrakis pourrait être un Éden si ceux qui la régissent se préoccupaient d'autre chose que de l'épice.
Il n'a pas répondu à ma question, se dit Leto. Et il demanda,
comment pourrait-on faire un Éden de cette planète sans argent ?
Mais qu'est-ce donc l'argent s'il ne vous achète pas les services qui vous sont nécessaires ?
En voilà assez, songea le duc. Nous discuterons de cela une autre fois. Pour l'instant, je crois que nous approchons du bord du bouclier. Dois-je garder le même cap ?
Même cap, murmura Kainz.
Paul regarda au dehors. Le sol crevassé s'abaissait par degrés vers une plaine de rochers nus qui s'achevait par une corniche acérée. Au-delà, les dunes étaient comme d'innombrables ongles alignés jusqu'à l'horizon. Ça et là, dans le lointain, apparaissait une tache claire, une macule sombre révélant autre chose que du sable. Des affleurements rocheux, peut-être. Dans cette atmosphère vibrante de chaleur, Paul ne pouvait en être certain.
« Y a-t-il de la végétation au-dessous de nous ? »
demanda-t-il.
« Un peu, » répondit Kainz. « La vie à cette latitude est surtout représentée par ce que nous appelons les petits voleurs d'eau. Ils s'attaquent les uns les autres pour l'humidité. Ils se repaissent des traces de rosée. Certains endroits du désert sont grouillants de vie. Mais toutes les créatures doivent apprendre à survivre dans les conditions rigoureuses du désert. Si vous vous retrouviez là en bas, il vous faudrait imiter ces créatures ou mourir.
Vous voulez dire que je devrais voler l'eau des autres ? »
demanda Paul. Cette idée l'outrageait et sa voix révélait son émotion.
C'est bien ainsi que cela se passe, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voyez-vous, mon climat exige une attitude particulière envers l'eau. Vous ne pensez qu'à l'eau à chaque instant, et vous ne gaspillez rien qui puisse recéler de l'humidité.
Mon climat, pensa le duc.
2 degrés plus au sud, monseigneur, dit Kainz. Un grain arrive de l'ouest.
Le duc acquiesça. Il avait aperçu la vague de sable orangée. Il fit pivoter leur nid et remarqua le reflet orange de la poussière sur les ailes des appareils d'escorte qui épousaient sa manœuvre.
Cela devrait nous permettre de passer au large de la tempête, dit Kainz.
Voler au milieu de ce sable doit être dangereux, remarqua Paul.
Est-ce qu'il peut vraiment entamer les métaux les plus durs ?
À cette altitude, ce n'est pas du sable, mais seulement de la poussière. Les seuls dangers sont l'absence de visibilité, la turbulence et l'encrassage des commandes.
Est-ce que nous verrons des mines d'épices aujourd'hui ?
Très probablement.
Paul se tut. Il avait utilisé ses questions et son hyper-perception pour se livrer à ce que sa mère appelait un enregistrement de la personne. Il avait Kainz maintenant. Il avait sa voix et chaque détail de son visage, de ses gestes. Un pli anormal dans la manche gauche de sa robe révélait en outre la présence d'un couteau. La taille était bizarrement renflée. On lui avait appris que les hommes du désert portaient une bourse de ceinture dans laquelle ils mettaient divers petits objets. Peut-être cela expliquait-il ce renflement qui ne pouvait être dû à une ceinture bouclier. Une aiguille de cuivre, portant l'image gravée d'un lièvre, était piquée dans la robe de Kainz, près du cou. Une autre, plus petite, mais portant le même dessin, était visible sur le bord du capuchon rabattu sur les épaules. À côté de Paul, Alex se pencha vers le compartiment arrière et y prit sa balisette. Kainz le regarda un instant tandis qu'il accordait l'instrument, puis il reporta son attention sur le paysage.
« Qu'aimeriez-vous entendre, jeune maître ?» demanda Gurney Alec.
« Choisis pour moi, Gurney. »
Alec se pencha sur l'instrument, pinça une corde et se mit à chanter doucement.
« Nos pères vivaient de la manne du désert, en un pays brûlant, où hurlaient les vents. Seigneur, sauvez-nous de cette affreuse terre. Sauvez-nous, oh oui, sauvez-nous, de la soif et du vent du désert. »
Kainz se tourna vers le duc.
Vous voyagez avec bien peu de gardes, monseigneur. Sont-ils tous doués de si nombreux talents?
Comme Gurney? Le duc sourit. Gurney est un cas particulier. Je l'apprécie pour ses yeux. Peu de choses leur échappent.
Le planétologiste se rembrunit. Sans manquer une mesure, Alec reprit.
Car je suis comme un hibou sur cette terre. Oh oui, comme un hibou sur cette terre.
Le duc tendit brusquement la main vers le tableau de bord, s'empara d'un micro, l'ouvrit d'un coup de pouce et lança.
Escorte Gemma. Escorte Gemma. Objet volant à 9 heures dans le secteur B. L'identifiez-vous ?
Ce n'est qu'un oiseau,
dit Kynes, et il ajouta « Vous avez un regard perçant ?»
Le haut-parleur craqua, puis une voix répondit « Escorte Gemma, objet examiné avec grossissement maximal, c'est un grand oiseau. »
Paul regarda dans la direction indiquée et distingua la minuscule tache lointaine qui bougeait par instants. Il prit conscience que tous les sens de son père étaient éveillés, en état d'alerte.
« J'ignorais qu'il existait des oiseaux de cette taille aussi loin dans le désert, » dit le duc.
« C'est probablement un aigle, » fit Kynes. De nombreuses créatures se sont adaptées à ces régions. L'ornithoptère survolait à présent une plaine de rochers dénudés. Paul, 2000 mètres plus bas, discernait les ombres brisées des deux appareils. Le sol, vu de cette altitude, semblait plat, mais les ombres brisées disaient le contraire.
« Quelqu'un a-t-il jamais réussi à échapper au désert ?» demanda le duc.
Alex cessa de jouer. Il se pencha en avant pour mieux saisir la réponse.
« Jamais au désert profond, » dit Kynes. « Mais plusieurs fois, des hommes ont réussi à s'échapper de la zone secondaire. Ils n'ont réussi que parce qu'ils ont traversé les zones rocheuses où les vers s'aventurent rarement. »
Le timbre de la voix de Kynes retint l'attention de Paul. Il sentit ses sens s'éveiller ainsi qu'il s'y était entraîné.
« Ah, les vers !» dit le duc. « Il faudrait que j'envoie un. »
« Vous en verrez peut-être un aujourd'hui même. Là où il y a de l'épice, il y a des vers. »«
Toujours ?»
demanda Alec. « Toujours. »«
Existe-t-il une relation entre le ver et l'épice ?» demanda le duc.
Dans le mouvement que fit Kynes, Paul découvrit le pli de ses lèvres.
Les vers défendent les sables à épices. Chacun d'eux a un territoire. Quant à l'épice, qui sait?
Les spécimens de vers que nous avons pu examiner jusqu'ici nous amènent à supposer l'existence d'échanges chimiques complexes entre eux. Des traces d'acide chlorhydrique ont été relevées dans les vaisseaux, et ailleurs, on a détecté des acides plus complexes. Je puis vous confier la monographie que j'ai rédigée à ce sujet.
Et les boucliers sont impuissants ? Demanda le duc.
Les boucliers ?
Kynes grimaça un sourire.
Il suffit d'activer un bouclier dans la zone où opère le ver pour sceller votre destin.
Les vers alentour ignoreront les délimitations de territoire et ils viendront de très loin pour affronter le bouclier. Aucun homme muni d'un bouclier n'a jamais survécu à ce genre d'attaque.
Comment se comportent donc les vers capturés ?
Le choc électrique à haut voltage appliqué à chaque anneau séparément est la seule façon que l'on connaisse de tuer un ver, dit Kynes. Il est possible de les étourdir et de les blesser par explosif, mais chaque anneau conserve en ce cas une vie propre. En dehors des atomiques, je ne connais aucun moyen de détruire un ver tout entier. Ils sont d'une résistance incroyable.
Pourquoi n'a-t-on fait aucun effort pour les éliminer ? Demanda Paul.
« Cela coûterait trop cher, » dit Kynes. « Il y a trop de territoire à couvrir. »
Paul se renfonça dans son coin. Son sens de la vérité, sa perception des tonalités, lui disait que Kynes mentait ou ne disait que des demi-vérités. Il pensa, « S'il existe un rapport entre l'épice et les vers, en ce cas, tuer les vers pourrait signifier la destruction de l'épice. »
Bientôt, dit le duc, nul n'aura plus à se risquer dans le désert. Il suffira de porter ces petits émetteurs autour du cou, et les secours arriveront dès qu'on les appellera. Tous nos hommes en seront équipés d'ici quelque temps. Nous mettons sur pied une équipe de secours spéciale.
Très ingénieux, dit Kynes.
Votre ton me laisse entendre que vous n'êtes pas d'accord.
Pas d'accord? Mais si, bien sûr.
Mais cela ne sera pas de très grande utilité. L'électricité statique des vers de sable brouille la plupart des signaux. Les transmissions sont interrompues. On a déjà essayé cela, voyez-vous. Arrakis consomme beaucoup de matériel. Si un ver est à vos trousses, vous ne disposez que de bien peu de temps. En général, pas plus de 15 ou 20 minutes.
Et que conseilleriez-vous ? Demanda le duc.
Vous me demandez conseil, à moi ?
Oui.
En tant que planétologiste.
Et vous suivriez mon conseil ?
Si je le jugeais sensé.
Très bien, monseigneur.
Alors, ne voyagez jamais seul. »
Le duc détourna son attention des commandes.
« Est-ce tout ?»«
C'est tout. Ne voyagez jamais seul. »
« Et si l'on se trouve isolé par une tempête et obligé de se poser ?» demanda Alec.
« N'y a-t-il vraiment rien à faire ?»«
Rien recouvre un territoire immense. »
« Mais vous, que feriez-vous ?» demanda Paul.
Kynes lui décocha un regard acéré.
« Je me souviendrai de protéger avant tout mon distille. Dans une zone sans verre, dans des rochers, je resterai à proximité de mon appareil. Dans le sable, par contre, je m'en éloignerai aussi vite que possible.
Une distance de 1000 mètres est suffisante.
Puis je me cacherai sous ma robe. Et le verre aurait l'appareil, mais pas moi.
« Ensuite ?» demanda Alec. Kynes haussa les épaules.
« Ensuite, j'attendrai que le ver se décide à s'éloigner. »«
C'est tout ?»
s'exclama Paul. « Quand un ver s'est éloigné, on peut essayer de s'enfuir. Pour cela, il faut marcher doucement, éviter les sables tambours, les marais de poussière, et se diriger tout droit vers la zone rocheuse la plus proche.
Il y en a beaucoup. Il est possible de s'en sortir comme cela. »
« Les sables tambours !» dit Alec.
C'est un des effets de la compression du sable. Le moindre pas les fait résonner, et cela attire tous les vers alentour.
« Et les marées de poussière ?» demanda le duc.
« Depuis des siècles, la poussière s'accumule dans les cuvettes, et certaines sont si vastes qu'elles connaissent des courants et des marées qui engloutissent les imprudents. »
Alec se rassit, reprit sa balisette et chanta.
Au désert, chasse les bêtes sauvages, guettant l'audacieux solitaire, qui défie les dieux du désert et recherche les périls. Il s'interrompit net, se pencha en avant.
Nuage de poussière, droit devant, sire.
Je le vois, Gurney.
C'est ce que nous cherchions, dit Kynes.
Paul se redressa et aperçut le nuage jaune qui roulait à la surface du désert, à quelque 30 kilomètres devant eux.
C'est une des chenilles de votre usine, reprit Kynes. Elle est en surface, ce qui signifie qu'elle travaille sur l'épice. Ce nuage est formé par le sable qu'elle rejette après l'avoir centrifugé pour en extraire l'épice. Il n'existe pas de nuage semblable.
J'aperçois un engin aérien au-dessus, dit le duc.
Il y en a 2, 3, 4, fit Kynes. Ce sont des guetteurs. Ils attendent le signe du ver.
Le signe du ver?
En s'avançant sur la chenille, le ver crée une vague de sable en surface.
Mais il arrive aussi qu'il se déplace trop profondément pour que la vague soit visible. C'est pour cela que les guetteurs sont munis de sondes sismiques. Kynes examina le ciel.
Je ne vois pas l'aile portante qui devrait être à proximité.
Et le ver finit toujours par arriver? Demanda Alec.
Toujours.
Paul toucha l'épaule de Kynes.
Quelle est l'étendue du territoire de chaque ver?
Le planétologiste fronça les sourcils. Ce jeune garçon ne cessait de poser des questions d'adulte.
Cela dépend de sa taille.
Dans quel rapport? Demanda le duc.
Les plus grands peuvent parfois contrôler un territoire de 300 ou 400 km². Les petits...
Il se tut brusquement comme le duc lançait les fusées de freinage.
L'orni se cabra, tandis que mourait le chuchotement des fusées de queue. Les ailes creuses se déployèrent et commencèrent à brasser l'air. L'appareil prit toute son envergure véritable d'ornithoptère.
Le duc le redressa tout en maintenant le battement des ailes à un rythme lent. Il tendit la main gauche vers l'est, au-delà de la chenille.
Est-ce le signe du ver?
Kynes se pencha et regarda au loin dans la direction indiquée. Paul et Alec l'imitèrent. Paul remarqua que les appareils d'escorte, surpris par la manœuvre, avaient poursuivi leur route. Maintenant seulement, ils revenaient vers eux. La chenille était encore à 3 kilomètres.